morning edition from NPR News.
Let's see things on people how see.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, c'est au Canada que nous allons, qui vote lundi, élection parlementaire anticipée. Hein, Justin Trudeau qui entend garder sa place de Premier ministre, mais dont l'image est désormais un peu éloignée de ce jeune homme fringant et si photogénique. Il y a quelques casseroles quand même à traîner pour ce Premier ministre et on y vient tout de suite. Le bruit du monde est en Suède, où les médecins de l'hôpital le plus en pointe sur ces questions s'interrogent sur les transformations identitaires des mineurs. Désormais, hormones ou opérations des jeunes trans devront attendre l'âge de 18 ans. Le débat a saisi la Suède et c'est passionnant. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legény a trouvé une grève de la faim pour le climat en Allemagne, un kit de télétravail au Japon et un mammouth laineux ressuscité. À 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier qui retracera pour nous la saga, la mythologie même de Dune, le film originel, celui de Lynch, le film jamais fait, celui de Jodorowsky, le tout. Tout ce qui tourne en tout cas autour de Dune. Et puis 18h55, c'est le monde d'après, signé ce soir par Claude Guibal, et qui se demande un mois après le retour des talibans si Al-Qaïda est en train de renaître de ses cendres. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Christian Rioux.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant du quotidien Le Devoir. Ici à Paris, je le disais, le Canada vote à partir de lundi, ce sera le 20 septembre. Élections parlementaires à l'issue desquelles Justin Trudeau, le Premier ministre, entend être reconduit. Il faut nous faire naviguer un peu, Christian Rioux, dans la politique canadienne. Ces élections sont des élections anticipées. On rappelle que Trudeau a été élu en 2015, réélu en 2019, mais sans majorité. Il a fait le pari cette fois de retrouver une majorité. Alors, est-ce qu'il cherche à surfer sur sa gestion du Covid qu'il estime être bonne? Est-ce qu'il risque de se tirer une balle dans le pied? Qu'est-ce qu'on dit chez vous?
Oui, je pense que Justin Trudeau n'avait pas besoin de déclencher des élections. Il était bien en selle, même s'il avait un gouvernement minoritaire. Personne ne questionnait son gouvernement. Ses projets de loi étaient adoptés, passaient assez facilement. Mais lui a cru voir ce que les Anglais appelaient une fenêtre d'opportunité, un moment, une espèce d'éclaircie où il pourrait se faire réélire et cette fois obtenir un gouvernement majoritaire parce que, comme vous l'avez dit, il était minoritaire depuis 2 ans. Mais il semble que son destin soit de demeurer minoritaire ou peut-être même de ne pas être réélu et de laisser la place à un gouvernement conservateur minoritaire.
Alors on y viendra effectivement à ce qu'il a en face de lui et si oui ou non il s'est tiré une balle dans le pied. La fameuse fenêtre d'opportunité, c'est un peu triste à dire comme ça, mais oui. Est-ce que réellement c'est le Covid? Est-ce qu'on dit au Canada, chez vous, c'est vrai que cette gestion a été bonne et qu'il s'est bien débrouillé pendant la crise du Covid, Justin Trudeau?
Oui, écoutez, là, je pense que la gestion de Trudeau a été moyenne, on pourrait le dire. Elle a été mauvaise au début. Justin Trudeau a été juste après Emmanuel Macron, le dernier chef d'État du monde à fermer les frontières. Lui non plus ne voulait pas les fermer, il s'y est résolu. Emmanuel Macron pas tout à fait par la suite. Et donc, je pense que sa gestion a été moyenne, mais vous savez, toutes les élections de Justin Trudeau ont été assez fragiles. Mm-hmm. Sa première élection où il a été majoritaire en 2015, s'est jouée parce que le nouveau Parti démocratique, qui est le parti plus social-démocrate, s'est effondré littéralement. C'est lui qui devait l'emporter, qui devait être élu. Et finalement, on s'est retrouvé avec Justin Trudeau un peu comme dans une situation un peu de surprise. Sa deuxième élection, c'était
le fils de son père aussi.
Il y avait cette aura qui jouait quand même à cette époque. Mais vous l'avez dit, l'image de Justin Trudeau est beaucoup plus écornée aujourd'hui. C'est un chef d'État qui fait des gaffes, qui s'exprime plutôt de manière plutôt un peu médiocre. Mm-hmm. Son épaisseur intellectuelle est régulièrement questionnée.
Ah oui, à ce point-là.
Oui, à ce point-là. C'est-à-dire qu'on sait que Justin Trudeau est une image. C'est quelqu'un qui a un bon contact avec la population, mais c'est pas un stratège.
Une belle image marketing, en fait.
Mais il est extrêmement bien encadré. Vous savez que le Parti libéral au Canada est le parti, je dirais, naturel du pouvoir. C'est le parti de, certains diraient, de l'État profond. Mm-hmm. Et il est extrêmement bien encadré. Et donc, Justin Trudeau, mais il fait des gaffes. Hein. Rappelez-vous ce espèce de déguisement en Inde lors d'un voyage officiel en Inde où Justin Trudeau, avec sa famille, s'était déguisé en espèce de personnage de Walt Disney, croyant bien faire. C'est quelqu'un qui a passé toutes ces années à s'excuser auprès des Amérindiens, auprès d'à peu près toutes les causes possibles et imaginables. Mais à un moment donné, on se demande ce qu'il y a en dessous de tout ça, vous voyez, derrière.
C'est intéressant parce que l'image, y compris celle qui a traversé l'Atlantique, en gros, qu'on avait de lui, en tout cas, effectivement, en 2015, c'était alors, fils de son père, certes, mais aussi ce jeune homme extrêmement fringant, très photogénique, qu'on voyait effectivement affiché partout avec sa famille, qui s'affichait à la Gay Pride, etc. Ce qui était une manière aussi de prendre un contre-pied intégral par rapport à Stephen Harper avant lui et oui, au Parti conservateur. Ouais. Donc, il y a eu ça, ça a tenu combien de temps, en fait, ça? Et surtout, est-ce que vous avez été dupe au Canada? Et combien de temps ça a duré d'être un peu dupe du personnage?
Je pense qu'on n'a pas été dupe très longtemps. Justin Trudeau, je dirais, épouse toutes les causes à la mode, quelque part. Il est chef d'État qui se promène dans le monde entier en disant qu'il est féministe et dit que la politique étrangère canadienne est d'abord une politique féministe, comme si le Canada n'avait pas d'intérêt économique à défendre dans le monde, comme s'il n'avait pas aussi des intérêts géostratégiques. Mais ça, il n'en parle jamais. Pour lui, la politique étrangère canadienne est d'abord et avant tout féministe. Et donc, cette image, elle est aujourd'hui très, très écornée, d'autant plus qu'il a devant lui un chef conservateur, Erin O'Toole, qu'on a, je crois, sous-estimé. Mm-hmm. C'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas. On s'est dit...
Il vient de prendre la tête du Parti conservateur.
Oui.
Une petite année, c'est ça?
Comment?
Une petite année,
oui, à peu près. À peu près, mais personne ne le connaissait, surtout pas au Québec, chez les francophones. Et donc, personne ne le connaissait. Et en même temps, c'est quelqu'un qui s'est avéré beaucoup plus solide que ce qu'on croyait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas tombé dans les traquenards habituels dans lesquels tombent toujours les conservateurs, où on les enferme dans le débat sur l'avortement, sur la fin de vie. Lui, il a su éviter ces débats-là et porter le débat sur d'autres choses, l'équilibre budgétaire, par exemple.
Et je vois des choses très, au fond, très, enfin, libérales au sens américain, c'est-à-dire de gauche, on va le dire comme ça, de protection des régimes de retraite, allongement des allocations chômage, qu'on n'imagine pas dans la bouche d'un conservateur, y compris chez vous, d'ailleurs.
Oui, absolument, absolument. Mais c'est en même temps quelqu'un aussi qui tient un discours pragmatique. Justin Trudeau, c'est quelqu'un qui n'a jamais regardé à la dépense, n'a jamais compté, et les déficits canadiens sont énormes, ils sont énormes partout. Mais Erin O'Toole a peut-être l'intelligence de dire que on ne rasera pas gratis tout le temps. Donc, et que l'après-COVID, peut-être qu'après le COVID, il faudra quand même payer un peu certaines dettes. Et Justin Trudeau n'a pas, semble-t-il, pris conscience de ça, mais c'est dans la tête pourtant des Canadiens et des électeurs aujourd'hui. Ça.
Est-ce que les Québécois du Bloc québécois sont toujours les fauteurs de troubles ou pas?
Écoutez, vous savez, cette campagne était pour les Québécois relativement ennuyante. Justin Trudeau promettait un programme de garderie. Nous, on en a déjà un. Mm. Il promettait un programme pour le Canada anglais, qui lui n'en a pas et qui était copié sur le nôtre. Donc, ça n'excitait pas beaucoup les électeurs québécois. Jusqu'au débat, anglais, où l'animatrice en chef du débat a posé la question justement au chef du Bloc québécois, Monsieur Blanchet, lui a dit: que pensez-vous des lois discriminatoires qu'il y a au Québec? Lois discriminatoires étant évidemment des lois concernant la laïcité, loi qui a été adoptée par la majorité de l'Assemblée nationale au Québec, et une loi qui n'est pas encore adoptée mais qui est en discussion actuellement pour la protection du français, qui veut renforcer dans le fond les protections du français. Alors évidemment, là, on a créé un tollé. Tout le monde pensait que le Bloc, comme le Bloc québécois, comme on le croit, on l'imagine à chaque élection, allait s'effondrer. Et non, il ne s'effondre pas. Au contraire, il reprend de la vigueur. Et à 30-35%, le Bloc québécois au Québec peut empêcher, dans le fond, un gouvernement majoritaire. Il peut empêcher un gouvernement majoritaire de Justin Trudeau, comme il peut empêcher aussi un gouvernement majoritaire de Erin O'Toole, du conservateur.
Donc c'est un peu les faiseurs de rois. Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est le fameux nouveau parti démocratique, qui a ce jeune homme qui est un sikh, qui est très charismatique aussi, et qui fait beaucoup parler de lui. Donc, les faiseurs de rois se situent de quel côté?
Le nouveau parti démocratique n'a pas décollé, ne décolle pas véritablement. Je pourrais dire que dans une certaine mesure, Justin Trudeau lui vole régulièrement son programme, mais ça, c'est historique au Canada.
Et pour qu'on
comprenne... Les libéraux volent toujours le programme du NPD et se font élire à leur place.
Et pour qu'on comprenne bien, où est-ce que, si on comparait avec l'échiquier français, alors ils sont à gauche des libéraux, le NPD, mais ils sont à gauche comment? politiquement? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la France insoumise ou un peu moins que ça? On est où, en fait?
On n'est pas tout à fait dans la France insoumise, mais on est probablement là où est le Parti socialiste, peut-être, aujourd'hui. Mm. Mais Jacques Mettic n'est pas arrivé à faire décoller ce parti qui était promis au pouvoir dans les élections précédentes. Et donc, aujourd'hui, je vous dirais que c'est plutôt le Bloc québécois qui joue l'empêcheur là, de tourner en rond.
Christian Rioux, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que il y a eu un sondage à la fin du mois d'août, je crois, pour Radio-Canada, et qui listait les préoccupations des Canadiens, et dont la première était l'environnement, la deuxième était la relance économique, et la troisième était la fin de la pandémie, si je ne m'abuse. Et pourtant, je ne vois pas de vert. En tout cas, on les voit très très loin. Est-ce que ça veut dire que au Canada, les préoccupations environnementales ont été mangées par les partis, en fait, et que du coup, le parti vert en lui-même représente finalement pas grand-chose? Est-ce que c'est quasiment pas dans la campagne, alors qu'il y a quand même beaucoup à dire, notamment sur le bilan de Justin Trudeau?
On a parlé du Parti vert dans cette campagne uniquement à cause des dissensions internes au sein du Parti vert. Le Parti vert n'a jamais dépassé un ou deux députés au Canada. C'est un parti extrêmement marginal et je dirais qu'il est en voie encore aujourd'hui de marginalisation.
Donc qui sont les verts, en fait? Est-ce que tout le monde est les verts à la fois, ou est-ce que c'est NPD qui serait une sorte de NPD
vert? Tout le monde est vert. On sait que les conservateurs sont moins verts que les autres. Mais aujourd'hui, c'est assez fascinant parce que tout le monde se livre une espèce de surenchère de promesses où on promet de supprimer 30, 40, 50 et certains vont même jusqu'à 60% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 9 ans.
Et la 2030. Raison pour laquelle je vous pose la question, c'est justement que le bilan d'émissions de gaz à effet de serre de Trudeau est très mauvais, puisque c'est le plus mauvais d'ailleurs, si je ne m'abuse. Réellement, il y a eu une augmentation en flèche, il y a eu des histoires de pipeline aussi chez vous, etc. Donc qui le met face à ça dans ces partis d'opposition?
Le bilan du Canada est extrêmement mauvais parce que le Canada est une puissance pétrolière, même s'il a l'air d'un pays comme ça, avec plein de petits oiseaux, de gentils ours polaires. C'est un peu l'image qu'on a du Canada. Mais le Canada, 25% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par la production de gaz et la production de pétrole avec les sables bitumineux.
Et du coup, qui le met face à ça, Trudeau?
Trudeau lui-même veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Lui-même a un plan, un projet là-dessus, mais les intérêts économiques du Canada, évidemment, ne permettent pas au Canada de supprimer comme ça du jour au lendemain sa production.
Ça veut dire que ça ne fait pas vendre, en fait. Il n'y a pas d'enjeu vert chez vous.
Non, vous savez que les régions sont très fortes au Canada. Ouais. Hein. Vous avez le Québec, vous en parlez à l'instant, qui risque d'empêcher un gouvernement majoritaire, mais vous avez l'Alberta qui vote massivement conservateur, justement pour qu'on n'élimine pas cette industrie qui est cruciale, en tout cas pour les gens qui vivent là-bas.
Et en cela, à certains égards, vous ressemblez à vos voisins du dessous, en fait, dans ce genre de contradiction. Et si j'ai un voisin du dessous, c'est précisément parce que ce qu'on a vu aussi récemment dans la campagne est finalement pas habituel dans un pays assez, j'allais dire, placide. Il n'y a vraiment aucune méchanceté là-dedans, mais très calme qu'est le Canada habituellement. On a vu les manifestations anti-vax qui pouvaient ressembler aux nôtres, qui pouvaient être parfois assez violentes, ressembler aussi donc à celles du dessous, à celles des États-Unis. Est-ce qu'il se passe quelque chose aussi dans sa campagne, cette campagne de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a plus de polarité, même de colère qu'il y en a?
Vous n'osez pas le dire, mais c'est vrai que les campagnes électorales au Canada sont un peu ennuyantes, mais moi je peux le dire. Mais c'est vrai que dans cette campagne, on a vu des manifestations pas violentes, mais un peu qui faisaient du bruit, faisaient du bruit. Mais écoutez, à chaque fois, c'était des centaines de personnes, et il faut pas grand chose au Canada pour qu'on tout à coup on craigne les dissensions et on craigne les controverses. Donc c'est vrai que c'est un peu plus animé que d'habitude, mais ça reste relativement doux et soft.
Voilà, parce que je me demandais s'il y avait une espèce de crainte d'importation de certaines stratégies, notamment des stratégies américaines, et qu'on pouvait voir dans ce genre de manifestation ou pas du tout?
Oui, il y a une certaine importation des stratégies américaines, mais ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'on peut voir aux États-Unis ou même en France. En France, ici. Et vous savez, le Canada est un pays qui, malgré le Québec, malgré le Canada anglais, est plutôt consensuel, donc aime bien le consensus. Alors, quand on lève le ton un peu trop haut au Canada, ça peut marcher quelques temps, mais pas très longtemps.
Alors, ça ne plaît pas aux Canadiens. Christian Rioux, je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir éclairé sur ces aux élections. Ça se passe à partir, ça se passe le lundi, c'est le
lundi prochain.
Le 20, on suivra ça avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup.
Merci infiniment
de votre passage dans Un jour dans le monde. Au revoir.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde avec la Suède qui s'inquiète pour les jeunes trans mineurs et décide désormais de ne plus apporter de traitement au-dessous de 18 ans. Un reportage passionnant signé Frédéric Faux dans un instant. Le bruit du monde, la suite sous les radars, Sébastien Logénime.
En Allemagne, de jeunes étudiants font une grève de la faim pour alerter sur le réchauffement climatique.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir, c'est le film qui va tout écraser sur son passage au cinéma, mais que faire si vous n'avez pas lu le cultissime Dune de Frank Herbert.
Le monde d'après, c'est vous Claude Guibal. Bonsoir à vous Claude.
Bonsoir, nous on ira en Afghanistan où un mois après le retour des talibans, on s'interroge sur l'avenir de leurs alliés d'Al-Qaïda qui pourraient bien profiter de la situation.
A tout de suite tout le monde, le tour de la planète ce n'est pas fini. Tiens, il passe par Auckland, Nouvelle-Zélande. Voici Lord Solar Power, c'est dans la playlist de France Inter.
I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Tears that you've cried, it's over. It's a new state of mind. Are you coming, my baby? Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Blink three times when you feel it kicking in. That's
le bruit du monde ce soir est en Suède, où l'on s'interroge sur les jeunes trans. La Suède, vous le savez, a été le pays le plus en avance sur ces questions. Dès 1972, elle a reconnu la dysphorie de genre, ce mal-être donc provoqué par l'inadéquation entre son sexe biologique et son identité de genre. Et depuis, elle aide ces jeunes gens. Dès l'âge de 16 ans, même avant, parfois, on parle de bloqueurs de puberté pour les très jeunes, on parle d'injections de testostérone, d'œstrogènes, d'opérations, même parfois pour changer de sexe. Et pourtant, voici que le plus prestigieux hôpital de Suède, le Karolinska, pionnier dans ses traitements, a décidé en mars dernier de ramener à 18 ans les traitements hormonaux ou la chirurgie. Les médecins plaident le principe de précaution. Ils réalisent, disent-ils, que certaines transformations ont eu lieu trop tôt pour des jeunes gens qui, aujourd'hui, interrogent leur choix. Les associations de défense des trans, elles, évidemment, parlent d'un terrible recul, un face-à-face sur un sujet tellement contemporain, tellement sensible aussi. Le reste, c'est Frédéric Faux qui raconte.
Dans son appartement de Stockholm, Åsa prend l'album où sont conservées les photos de sa fille Johanna, une au début de chaque mois. C'est le moyen qu'elle préfère pour montrer ce qui lui est arrivé.
This is when she was, I think, 14.
Ça, c'est quand elle a eu 14 ans. Elle a commencé à couper ses cheveux, puis elle est tombée malade. Vous pouvez voir qu'elle était très maigre, pas du tout heureuse. Quand on l'a emmenée à l'hôpital pour anorexie, on a remarqué qu'elle suivait des transgenres sur les réseaux sociaux. J'ai pleuré. Je ne pouvais pas accepter l'idée qu'elle voulait devenir un garçon. Mais elle est devenue Casper.
And then she came out as Casper.
Et pour Johanna, c'est comme si ce choix s'était imposé.
J'ai commencé à ressentir cette haine envers mon corps. Est-ce que j'avais besoin de perdre du poids? J'ai pensé ça pendant longtemps, mais après la cible a changé et je me suis dit peut-être que mon corps est complètement contrefait, que je ne suis tout simplement pas une fille. Si je faisais cette chirurgie pour enlever mes seins, si je prenais de la testostérone, je pensais que je serais plus heureuse. Alors j'ai pris le temps d'étudier ça toute seule sur YouTube et Instagram. Puis j'ai commencé à en parler à mes amis les plus proches, à ma famille et au monde entier. Voilà, je suis transgenre. Je vous demande de respecter cette décision et de m'appeler Casper. Et ils l'ont fait.
Casper est un cas particulier, car après avoir réfléchi pendant plus d'un an, il a décidé de redevenir Johanna, sans avoir pris de traitement ou subi de chirurgie irréversible. Mais ce n'est pas le cas de nombreux autres adolescents suédois. Le pays a été le premier au monde à traiter la dysphorie de genre, même chez les plus jeunes. D'où l'incrédulité provoquée en mars dernier par la décision de l'hôpital Karolinska. Cet établissement prestigieux, dépendant de l'institut qui décerne le Nobel de médecine, refuse désormais le traitement hormonal aux nouveaux patients mineurs, sauf dans le cadre d'une étude clinique. Et Sven Roman, psychiatre pour enfants, s'en félicite.
C'est vraiment bien qu'ils aient pris cette décision. Car 90% des jeunes patients que je croise souffrent d'autres pathologies qui sont en fait leur vrai problème. Ils sont autistes ou sont atteints de dépression, d'anxiété, de syndrome post-traumatique. Pour tous ces troubles, nous avons des traitements dont l'efficacité a été prouvée par la science, mais pas pour la dysphorie de genre quand elle touche les enfants. On devrait faire le travail que l'on a toujours fait dans la psychiatrie infantile, les écouter, leur parler, pourquoi pensent-ils ce qu'ils pensent, et là on peut les aider.
L'hôpital Karolinska s'appuie sur une compilation d'études montrant qu'il n'y a pas de preuve de l'efficacité de ces traitements pour le bien-être des patients et sur la dangerosité des effets secondaires. Mais ce qui alarme le plus les praticiens, c'est l'emballement des courbes. En 2001, seules 12 personnes de moins de 25 ans ont été diagnostiquées avec une dysphorie. En 2018, c'était près de 1900, avec une hausse spectaculaire des filles ados qui veulent devenir des garçons. Pour Yeran Rostam, dirigeant de l'association RFSL Ungdom, qui s'adresse à ce public, le phénomène n'a rien d'anormal.
La société a changé, nous sommes plus visibles, il y a plus d'acceptation. Cela conduit plus de gens à se comprendre, à se déclarer et à vouloir vivre authentiquement comme ils sont.
Mais pour certains médecins, l'une des causes de cette vague, elle est là. Les transgenres, très présents sur les réseaux sociaux, participeraient à une sorte de contagion sociale. Pour Johanna, en tout cas, leur rôle a été déterminant.
Ces trans sur YouTube vous disent comment savoir si vous êtes trans. Eh bien, si vous êtes ici, en train de regarder cette vidéo, ça pourrait être déjà le signe que vous êtes trans. Je voyais bien comment ils étaient heureux et je me disais, si je peux être aussi heureuse que ça, il faut que j'en sois.
La jeune femme a depuis été raisonnée par un psychologue indépendant qui a mis d'autres mots sur son mal-être. Mais après coup, ce qui la met le plus en colère, c'est l'attitude des médecins.
Ceux qui m'ont le plus encouragée, ce sont les médecins à l'hôpital. Au premier rendez-vous, on m'a dit « Félicitations, vous avez fait votre coming out, c'est si courageux. Quel traitement vous voulez faire après? De la testostérone ?» Et moi, je pensais qu'on était là pour explorer qui je suis, pour en parler avec vous. Mais dans ces cliniques spécialisées, on ne vous remet pas en question, pas du tout.
J'ai été un animal de laboratoire. Ils font des expériences sur des jeunes qui ont toute une vie devant eux.
Les témoignages de ceux qui regrettent leur transition, comme l'a montré ce documentaire choc diffusé par la télévision suédoise, sont pourtant de plus en plus nombreux. Dans les familles, on sait aussi que ces symptômes de dysphorie de genre disparaissent souvent au début de l'âge adulte, sans aucun traitement. Mais pour Yeran Rostam, ne pas reconnaître la diversité du phénomène trans est aussi une erreur.
C'est cette image qu'ils ont de la jeunesse comme étant incapable de prendre une décision ou de se connaître eux-mêmes. eux-mêmes. Vous avez beaucoup de transgenres qui n'ont pas besoin de traitement de confirmation du genre. Ils se contentent de changer leur façon de s'habiller ou de changer de prénom. Et vous avez bien sûr ceux qui seront plus heureux avec des hormones ou ceux qui ont vraiment besoin d'une chirurgie. Ne pas donner de traitement entraîne aussi des conséquences irréversibles. Être entraîné dans une puberté qui n'est pas la bonne a aussi des conséquences sur l'équilibre mental. Et ça, ils n'en parlent jamais.
Contrainte de réagir à la décision unilatérale de l'hôpital Karolinska qu'ont commencé à suivre d'autres établissements, les autorités de santé suédoises se sont données jusqu'à la fin de l'année pour établir un nouveau protocole de soins.
Passionnant sujet, merci à Frédéric Faux en Suède pour Un jour dans le monde. Le bruit du monde, la suite passe sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Et Sébastien, nous sommes dans les rues de Berlin, à quelques encablures du Reichstag qui abrite le Parlement allemand.
C'est là qu'a commencé, il y a 2 semaines environ, la première grève de la faim climatique outre-Rhin. 6 jeunes Allemands ont décidé de cesser de s'alimenter pour alerter face à ce qu'ils appellent la catastrophe climatique. Ils sont lycéens, étudiants âgés de 18 à 27 ans, des activistes venus de toute l'Allemagne, soutenus par une équipe médicale qui prend leur tension, leur poids tous les jours. Ces militants ont clairement passé un cap dans la lutte pour la défense de la planète. Ils étaient déjà engagés dans d'autres ONG auparavant comme Extinction Rébellion, très actifs, on le sait, sur le terrain. Mais pour eux, ce n'était pas suffisant. Il fallait aller plus loin. La grève de la faim, donc, une mesure extrêmement dangereuse et radicale qu'ils assument complètement.
Und jetzt sehe ich den Hungerstreik.
Maintenant, dit l'un de ces 6 jeunes, je considère la grève de la faim comme l'ultime recours dans la désobéissance civile pour attirer l'attention sur l'extrême gravité de notre situation qui nous affecte tous. Il n'y a aucun endroit dans le monde où nous pouvons nous en préserver. Leur campement, ils l'ont installé dans la rue sous les fenêtres des politiques, à côté donc de la chancellerie et des parlementaires. Dans 2 semaines maintenant, ce sera les élections législatives outre-Rhin. Ils réclament une discussion sincère, ouverte sur le climat avec les 3 principaux candidats à la chancellerie. Jusqu'ici, seule la candidate écologiste les a contactés par téléphone. Ils se disent déterminés à aller jusqu'au bout.
Voilà qui nous emmène d'ailleurs, je vous le mets dans l'oreille, tout droit vers notre sujet. Téléphone sonne en 2e heure et c'est tant mieux. Allons au Japon, Sébastien, où c'est toujours le coronavirus qui inquiète la population.
Les Japonais confrontés à une 5e vague qui n'en finit pas et que certains attribuent aux Jeux Olympiques. Des manifestants japonais contre les JO, on s'en souvient, c'était en juillet dernier. Depuis, les Jeux ont eu lieu, sans public étranger, certes, mais maintenant, les hôpitaux japonais craquent. Difficile de savoir quelle part de responsabilité attribuer aux JO et aux variants Delta. Toujours est-il que les mesures de restriction sanitaire ont été prolongées dans tout le Japon jusqu'à la fin du mois. Concrètement, ça veut dire que le télétravail reste la règle pour 80% de la population, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est là qu'intervient une grande entreprise japonaise de design qui vient de commercialiser un kit pour se fabriquer son propre bureau et rester zen quand on n'a pas assez de place pour travailler chez soi. L'abri en question est minuscule, 91 cm de large sur 1,80 m de profondeur, à construire en 2 jours sur le trottoir juste en bas de sa maison, avec à l'intérieur le minimum vital professionnel, une chaise, un bureau, de l'électricité, le tout pour la modique somme de 4 200 €. Vous trouverez les photos sur le site, c'est stupéfiant. Sauf que les 70% de Japonais qui n'ont pas de maison et donc pas de possibilité de monter leur kit, eh bien pour eux, la majorité, la galère continue, au point que le musée du train et du bus à Kawasaki a transformé ses vieux trains de collection en espace de bureau pour 1,50 € de l'heure. C'est quand même moins cher.
Allez, hier, vous nous parliez, Sébastien, d'un pays qui n'existe pas. On termine ce soir avec un animal qui a disparu depuis des milliers d'années, qui pourrait bientôt renaître.
J'ai nommé le mammouth laineux, Fabienne. Une espèce disparue il y a 4000 ans, en effet, que des scientifiques se sont mis en tête de faire revivre grâce à des techniques de manipulation génétique. Ça nous rappelle évidemment quelque chose. La Fabienne, comment ne pas penser ici à Jurassic Park. Quel frisson, et ces savants fous qui espérèrent donner vie à des tyrannosaures grâce à de l'ADN. Là, on n'en est pas tout à fait là. Il ne s'agira pas de cloner des mammouths à partir d'ADN retrouvé dans la toundra sibérienne, mais il s'agirait plutôt de créer une espèce hybride mi-éléphant, mi-mammouth. Techniquement, c'est envisageable. On récupère des séquences ADN de mammouths laineux préservés dans le permafrost et on les réinsère dans le génome d'un éléphant d'Asie. C'est l'entreprise américaine Colossal qui est à l'origine de ce projet. projet. Elle vient de lever 15 millions de dollars pour ses recherches. Son idée, c'est de restaurer les écosystèmes perdus de Sibérie, les prairies arctiques notamment, pour lutter contre le réchauffement. Mais les obstacles sont encore nombreux, Fabienne, alors pas de risque pour l'instant d'être poursuivie par un mammouth très énervé, je vous rassure, avant plusieurs années. En attendant, vous pouvez toujours réfléchir au prochain nom de cette nouvelle espèce, mammouthant ou éléphant mouth à votre guise.
Thierry Maurice, moi j'aimerais bien, ouais, on pourrait l'appeler Maurice plutôt. Allez Sébastien, je vous remercie beaucoup, partez Maurice. Avec votre mammouth. Et voici Quantique, il est DJ, il est musicien, il est producteur, il est anglais, il vit en Colombie, ça s'appelle Duvido, voilà, ça y est je l'ai vu, et c'est sur France Inter. S'appelle Duvido, signé Quantique sur France Inter. Le mercredi, c'est cinéma et c'est maintenant.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, let me start.
A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son.
Alerte, alerte, film culte dans le cinéma en VO et avec vous Corinne Pellissier. Personne ne va échapper à ce raz-de-marée, le raz-de-marée Denis Villeneuve et donc le nouveau Dune qui débarque en France. On peut pas passer à côté, hein. Corinne, il y a une séance programmée quasiment toutes les heures dans les très grosses salles. C'est dire à quel point on parle de mythologie, on parle de culte. Et vous allez nous dire à quel point vous allez trouver ce film réussi d'abord. Mais d'abord, on va faire une petite séance de révision quand même. De quoi on parle? Pourquoi c'est culte surtout? Pourquoi d'abord, on a longtemps dit que c'était une histoire inadaptable?
Bon, en fait, Dune, c'est un peu comme un sujet du bac philo. Il y a de la dramaturgie, des grandes familles qui s'affrontent, comme dans Shakespeare, de la mythologie religieuse, un personnage principal censé guider tout un peuple, l'élu, il s'appelle Paul Atreides, joué par Timothée Chalamet. Je la refais, par Timothée Chalamet. C'est une histoire aussi de filiation, de trahison clanique, de lutte pour le pouvoir. Et puis Dune, c'est surtout une histoire qui nous parle d'actualité, qui nous parle de nous, même si nous sommes en 10191 dans une galaxie très lointaine sur la planète Arrakis, qui possède une richesse que tout le monde s'arrache, une épice au pouvoir mystique qui va provoquer de nombreux conflits.
We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray.
Smile, Gurney.
I am smiling.
The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts.
Alors si le Dune de Frank Herbert a tant marché, hein, c'est le livre de science-fiction le plus vendu au monde. C'est parce qu'il a su, au-delà de son côté épique, opéra d'espace, nous interroger sur les grands enjeux du futur, qui n'ont d'ailleurs pas tellement changé depuis les années 60, la guerre froide et la menace atomique. On parle ici de préservation des ressources, de climat, d'environnement. Denis Villeneuve, qui réalise le film aujourd'hui, est habité par cette histoire depuis quasiment 40 ans. Et réussir cette adaptation était évidemment son rêve le plus absolu. Il nous explique pourquoi.
Ce qui m'intéresse dans la science-fiction, c'est de pouvoir parler de la réalité en toute liberté, de pouvoir porter un regard critique sur le monde contemporain. C'était un rêve qui était complètement hors de ma portée. Je faisais du cinéma à Montréal, des documentaires ou des films à petit budget. C'était impensable pour moi d'avoir un jour ces moyens-là. Mais j'étais persuadé, ceci dit, que quelqu'un porterait Dune à l'écran un jour, qu'il y aurait une autre adaptation, parce que je sentais que Lynch, avec toute sa maîtrise, avait pas réussi à apporter à l'écran l'essence du roman, pour moi, qui était, entre autres, un certain rapport à une certaine écologie, à ces dangers de l'ultra-exploitation, de la surexploitation des ressources naturelles liées à un colonialisme sauvage, et les effets, les impacts de ça sur les sociétés qui sont exploitées, évidemment, et il était passé à côté esthétiquement. Il y a des choses, surtout dans ce qu'il avait voulu transformer.
Dimension épique, donc, hein, l'élu, les vastes étendues de sable, tout ça, ça fait penser à Star Wars. Mm-hmm. Alors, pourquoi c'est un film qui a été si difficile à adapter, Corinne? Pourquoi tant de réalisateurs se sont cassés le nez?
Alors, c'est vrai que Dune a été une grande source d'inspiration pour le Star Wars de George Lucas, mais le résultat chez Denis Villeneuve est très différent, avec une place laissée notamment au décor naturel. La plupart des scènes ont été tournées dans le désert pour permettre aux spectateurs de percevoir l'impact du paysage sur la mise en scène, sur les personnages, ce que ne faisait pas le David Lynch, par exemple, hein, avec son Dune dans les années 80. Il n'avait pas tellement marché au cinéma, mais il reste très culte et a de nombreux fans, hein, notamment Denis Villeneuve. C'est un projet qui était difficile pour beaucoup de réalisateurs parce qu'il fallait trouver le langage visuel qui ne trahirait pas le livre de Frank Herbert et qui rendrait pourtant l'histoire accessible au public. Le Dune que vous verrez au cinéma cette semaine plante les bases de ce qui sera sans doute à l'avenir une nouvelle grande saga de l'espace. Le livre est découpé en 6 tomes et ce premier film nous en met plein la vue, vraiment réussi, épuré mais spectaculaire.
Et pour les super fans, il faut absolument aller plus loin dans l'exploration du sujet avec l'excellent documentaire, celui d'Alejandro Jodorowsky, sorti en 2013, son Dune à lui, celui qu'il n'a jamais bouclé. C'est encore une histoire dans l'histoire et c'est formidable. Merci beaucoup Corinne Pellissier.
Fabienne Saintès, le 18-20.
Le monde d'après, ce soir c'est vous, Claude Guibal. Drôle d'anniversaire, ça va tellement vite. Il y a pile un mois, c'était l'arrivée des talibans à Kaboul. Et la question qui nous occupe ce soir, Claude, est de savoir si on sait mieux cerner aujourd'hui ce qui est devenu et ce que deviendra Al-Qaïda dans tous ces bouleversements. Toujours bien là, toujours bien puissant, c'est votre monde d'après.
Oui, parce que le point de départ, hein, de ce chaos de cet été, Fabienne, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même cet accord négocié entre les Américains et les talibans. On s'en va et en échange, ben vous vous engagez à ne jamais laisser quiconque utiliser le territoire afghan pour menacer les intérêts américains où que ce soit dans le monde. Mais Fabienne, vous connaissez l'adage, on le connaît aussi très bien à Kaboul, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Autant dire que là, tous les signaux sont au rouge.
Alors pourtant, pour justifier le retrait de ses troupes d'Afghanistan, Biden n'a cessé de rappeler que la seule raison de la présence américaine en Afghanistan, c'était détruire Al-Qaïda. Est-ce que le compte y est ?
Bah, pas vraiment, parce que certes, en 20 ans, la présence des Américains et des troupes de longtemps a affaibli, hein, l'organisation au niveau de son noyau originel. Hein. Al-Qaïda, c'était quand même une organisation très centralisée, mais ses branches à travers le monde, au contraire, eh bien, elles ont pris de l'ampleur au Yémen, au Sahel, en Asie, et cela malgré la concurrence de l'État islamique. Et en Afghanistan, même affaibli, Al-Qaïda n'est pas morte. En février dernier, un rapport des Nations Unies affirmait même qu'elle était toujours présente sur plus d'un tiers du territoire et pouvait compter sur 4 à 600 combattants.
Et alors avec le retour des talibans au pouvoir, Claude, quel est le risque de voir Al-Qaïda regagner de la vigueur ?
Eh bien ce risque il n'est pas anodin, d'autant qu'entre les talibans et Al-Qaïda, c'est quand même une longue histoire. À la base, les liens se sont tissés dans les années 90, après le départ des troupes soviétiques, lorsque les talibans se sont appuyés sur les djihadistes pour combattre les moudjahidines de l'Alliance du Nord, hein, ceux qui étaient emmenés par le commandant Massoud. Et c'est grâce aux combattants d'Al-Qaïda en fait que les talibans ont pu prendre le pouvoir. C'est une alliance tactique qui a permis à Oussama Ben Laden de trouver en Afghanistan bien ce sanctuaire qu'il cherchait pour organiser et planifier les attentats contre les États-Unis. Et puis depuis, les liens se sont renforcés, des histoires d'hommes tenues par des décennies d'histoires communes, voire des liens familiaux tressés par des mariages. Et quel a été un des premiers gestes des talibans en prenant le pouvoir? Eh bien, ça a été de libérer des milliers de prisonniers de la prison militaire de Parwan. Et parmi ces prisonniers, ces détenus, qui avait-ils? Eh bien, des centaines de combattants et de cadres d'Al-Qaïda.
Alors du coup, aux États-Unis, certains se montrent extrêmement inquiets.
À commencer par les hauts responsables de l'armée, la CIA, qui se sont exprimés la semaine dernière lors d'un colloque. Ils ont noté des mouvements autour d'Al-Qaïda, l'arrivée notamment, le retour même de l'ancien chef de la sécurité d'Oussama Ben Laden, qui avait fui en 2001, qui est revenu. D'autres combattants qui ont également retraversé la frontière avec le Pakistan. Le rapport de l'ONU disait que Al-Qaïda pourrait se reconstituer d'ici 1 à 2 ans. Et en fait, les choses pourraient aller bien plus vite.
Et oui, parce que ce week-end, on a même vu réapparaître Al-Zawahiri, qui est le chef d'Al-Qaïda.
Oui, et qu'on disait mort, et on l'a vu pourtant dans cette vidéo à l'occasion des 20 ans des attentats. Alors la vidéo, elle mentionne pas le retour des talibans. Elle pourrait en fait dater du début de l'été, mais le message, il est limpide. Al-Qaïda est toujours vivante, même discrète. Mm-hmm. Ce n'est pas dans l'intérêt des talibans d'appuyer ouvertement l'organisation au moment où ils négocient leur reconnaissance avec la communauté internationale. Mais leur alliance tient toujours bon. Les spécialistes en sont persuadés. L'histoire bégaye, Fabienne, mais elle est loin d'être finie.
Claude Guibal, merci beaucoup et à très vite. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal de 19h. Merci de passer la soirée avec nous et ne bougez pas.